Vous écoutez, on lit pour vous.
Les bienfaits du bilinguisme à un âge précoce, un texte de Mathieu Perrault, paru le 21 octobre 2024 dans la presse. Les bébés qui apprennent deux langues en même temps ont un cerveau plus efficace, selon une nouvelle étude montréalaise. Ce bilinguisme simultané survient généralement quand les parents n'ont pas la même langue maternelle, mais il pourrait être reproduit artificiellement. Depuis 20 ans, plusieurs études ont montré que parler plus d'une langue a des effets positifs sur la santé, allant d'un niveau de stress moins élevé à une probabilité moindre de démence, en passant par une capacité accrue à récupérer après un AVC. Dans le dernier numéro de la revue académique Communications Biology, Xiao Qian Chai démontre les fondements des bénéfices cognitifs du bilinguisme. Avec des collègues, la psychologue de l'hôpital neuro de l'Université McGill a mesuré l'efficacité de la communication entre les différentes régions du cerveau chez 151 Montréalais. Un groupe avait appris le français et l'anglais bébé parce que leurs parents n'avaient pas la même langue maternelle, et les trois autres avaient appris une deuxième langue jeune, plus vieux ou pas du tout, explique Mme Chai. Les bilingues simultanés en tête de peloton. Les résultats les plus forts sur le plan de l'efficacité du cerveau ont été chez les bilingues simultanés qui apprennent les deux langues en même temps bébé. Ensuite venaient ceux qui avaient acquis une deuxième langue avant l'école primaire, ceux qui l'avaient apprise plus tard, en moyenne à 9 ans, et les monolingues. Les participants étaient en moyenne dans la mi-vingtaine. Il y avait moins de différence sur le plan de l'efficacité du cerveau entre chacun de ces trois derniers groupes qu'entre les bilingues simultanés et ceux qui apprenaient une deuxième langue avant l'école primaire à un âge moyen de 4 ans. Selon Mme Chai, la manière dont le cerveau établit des connexions entre ces différentes régions est différente selon l'âge d'apprentissage d'une deuxième langue parce que ces connexions visent à faciliter cet apprentissage. L'efficacité de la communication entre les régions du cerveau chez les bilingues simultanés provient du fait que le cerveau est plus malléable en très bas âge, au début de son processus de maturation. Les impacts de cette communication plus efficace entre les différentes régions du cerveau ne sont pas bien définis. Mais c'est certainement positif, selon Mme Chai. Les tâches cognitives requièrent généralement plusieurs régions du cerveau, dit-elle. Si la communication entre les régions du cerveau est plus efficace, cela devrait aider les tâches cognitives, comme la compréhension du langage, ou la prise de décision, selon quelques études. D'autres études ont montré que les bilingues ont une réserve cognitive qui repousse l'apparition de la démence. Par ailleurs, très peu des participants de l'étude parlaient une troisième langue. Mais selon Mme Chai, un bilingue qui apprend une troisième langue n'a pas de changement aussi important au cerveau que la personne qui apprend une deuxième langue. Reproduire le bilinguisme simultané. Les parents bilingues, qui ont la même langue maternelle, pourraient-ils reproduire artificiellement le bilinguisme simultané en parlant chacun une langue différente à leur bébé? Oui, ça peut être envisagé, dit Mme Chai. On a longtemps pensé qu'apprendre deux langues en même temps était néfaste, que l'acquisition du langage se faisait plus lentement. Mais on se rend compte aujourd'hui que ce n'est pas le cas. Krista Byers-Einlein, une professeure de psychologie spécialiste du bilinguisme à l'Université Concordia, confirme qu'apprendre deux langues en même temps n'est pas préjudiciable. L'enfant, dit-elle, va peut-être apprendre un peu moins vite les mots d'une langue parce qu'il en apprend deux en même temps, mais ce n'est pas divisé par deux. Déjà, il y a beaucoup de mots qui se ressemblent d'une langue à l'autre, par exemple « banana » et « banane ». Elle qualifie l'étude de Madame Chai de « très belle », avec des résultats fascinants. Madame Byers-Einlein a fait une étude qui paraîtra plus tard cet automne dans une revue avec comité de révision sur 281 enfants de familles bilingues montréalaises. Ce qu'on voit, c'est que peu importe la langue que parle chaque parent, l'enfant apprend les deux langues. Elle note que les mères ont deux fois plus d'influence que les pères sur l'apprentissage des deux langues, probablement parce que culturellement, elles s'occupent plus des enfants. En savoir plus, source Statistique Canada, 40% proportion des francophones québécois qui parlent français et anglais. 70% proportion des anglophones québécois qui parlent français et anglais. 9% proportion des anglophones canadiens qui parlent français et anglais. 48% proportion des francophones canadiens qui parlent français et anglais. C'était « Les bienfaits du bilinguisme à un âge précoce », un texte de Mathieu Perrault, paru le 21 octobre 2024 dans la presse.
Alex Francoeur et la Révolution de décembre, signé Québecissime. Une entrevue réalisée par Samuel Larochelle, parue le 28 octobre 2024 dans le magazine Fugue. Grosse année pour Alex Francoeur. En plus de participer à la saison des Étoiles de Révolution avec son partenaire Alex Carlos, il a reçu le mandat de renouveler les chorégraphies du spectacle décembre de Québecissime. Ah oui, il a également convaincu Jeremy Hudson, le chorégraphe de Taylor Swift, de participer à D-Jam, la convention qu'il organise en novembre à Saint-Constant. Alex et Alex sont de retour à Révolution. Pourquoi avez-vous accepté cette invitation? Alex Francoeur. On s'est beaucoup questionné avant d'accepter. Ce genre de contexte arrive rarement au Québec. 5 ans après notre saison régulière, on se sentait ailleurs. On a pris une belle maturité de partenariat. On a sauté dans l'aventure en se disant « advienne que pourra ». On n'est pas là pour gagner à tout prix ni pour laisser une nouvelle marque dans l'émission. C'est un cadeau qu'on s'offrait. En quoi avez-vous évolué? Quand on a fait la saison 2, notre partenariat était nouveau. On avait une belle complicité, mais on s'ajustait constamment jusqu'à ce que les choses fonctionnent. Aujourd'hui, il y a une écoute inégalée entre nous. Je peux faire une routine complète les yeux fermés parce que j'ai une confiance aveugle envers lui. Ça nous a permis d'aller plus loin dans la complexité de nos chorégraphies, les lifts et le partenariat, car on ne se questionne plus sur les réactions de l'autre. En quoi est-ce différent de compétitionner seulement contre des étoiles? Cette saison-ci, je sentais dans la salle des danseurs que tout le monde avait quelque chose à perdre. Ce sentiment apporte du positif et du négatif. L'ego des artistes embarque. Sachant qu'on est déjà rendu à un certain niveau dans nos carrières, on ne veut pas perdre. Mais en même temps, ça nous a poussé à aller plus loin, car les étoiles à nos côtés vont aussi plus loin. Et comme on se connaît tous, on connaît les forces des autres. Il y a eu beaucoup de blessures durant la saison, car on était tous en mode olympique. Décris-moi le défi de danser avec un corps qui n'est plus une petite jeunesse. J'avais arrêté de performer à ce niveau-là, car je travaillais davantage en tant que chorégraphe. J'ai donc dû faire une remise en forme extrêmement grande pour retrouver ce niveau. Pendant 9 mois, il n'y avait plus d'alcool ni de sortie. Je me concentrais sur l'entraînement pour retrouver mon mode de vie d'athlète. C'était très difficile, car ça ne revient pas aussi vite dans la trentaine. Les bobos restent plus longtemps. Au final, je suis sorti de la première étape de la saison en réalisant que j'étais encore capable et que je pourrais continuer la danse encore longtemps si je prenais soin de mon corps. Quels ont été tes projets les plus marquants depuis ta sortie de ta saison de Révolution? Le projet qui a tout changé pour moi, c'est de signer les chorégraphies dans Direct de l'Univers. Quand je suis sorti de Révolution, l'équipe m'a offert un poste de chorégraphe, alors que je n'avais presque jamais fait ça de ma vie. À travers le temps, j'ai rencontré beaucoup d'artistes et j'ai développé ma signature chorégraphique. Dernièrement, j'ai chorégraphié la grosse série américaine Ghost, qui était tournée à Montréal. Ça m'a fait comprendre que je pouvais accomplir ce que je voulais. J'ai aussi adoré travailler sur la comédie musicale d'Élie Saint-Cyr, une création 100% québécoise. J'ai également dansé sur des bye-bye. J'ai chorégraphié les deux fêtes nationales sur les plaines et à Montréal. J'ai travaillé avec Laurence Nerbonne, Sarah May, Fouki. J'ai collaboré aux trois dernières années de Juste pour rire. Et je m'occupe de Mammouth depuis 4 ans à Télé-Québec. Tu signes les chorégraphies de la prochaine édition de décembre. Qu'est-ce que ça représente? J'ai les étoiles dans les yeux quand on m'en parle. C'est un des premiers spectacles que j'ai vu. Une danseuse m'avait amené en coulisses quand j'étais petit gars. Je voyais ça si gros. 20 ans plus tard, on me donne carte blanche pour remonter toutes les chorégraphies des danseurs. C'est une charge de travail qui m'empêche de dormir la nuit. Je sens une grande pression d'accomplir quelque chose sur une tradition québécoise bien ancrée dans notre culture. Beaucoup de gens vont voir mon travail. Je ne veux pas manquer ma shot. Cela dit, mon travail doit s'inscrire dans la mise en scène qui existe déjà. À quel point le temps des fêtes est-il une période qui t'inspire? Ça m'égaye beaucoup en ce moment. On fait cette entrevue le 8 octobre et les chansons de Noël jouent déjà dans mon salon. Ce qui est le fun avec décembre, c'est que les danseurs sont des personnages. Ils sont des lutins, des fées et des villageois, alors que les chorégraphies doivent nourrir l'objectif des personnages à travers le mouvement. En ce moment, je baigne dans l'imaginaire du temps des fêtes. Depuis des années, tu organises D-Jam, la convention, qui offre des formations et des ateliers pour les danseurs. Parle-moi de ça. C'est ma façon de redonner à la communauté et de faire quelque chose de plus grand que de simplement réaliser mes rêves. J'avais envie qu'on enlève l'aspect compétitif de l'art. Alors, j'ai créé un lieu de rassemblement pour échanger sur la danse et pour élever la prochaine génération, afin qu'elle ait les outils pour faire de la danse un métier, un mode de vie ou une passion. Avec les années, j'ai vécu à Toronto, New York et Los Angeles. Ça m'a permis d'avoir beaucoup de contacts dans le milieu. J'aime les réunir pour triper avec eux au Québec. On a une convention sur la rive sud de Montréal, une sur la rive sud de Québec, et on en développe une troisième. Cette année, on fait venir Jeremy Hudson, le chorégraphe associé de Taylor Swift. C'est plus grand que nature. Je lui ai écrit pour présenter notre mission et dès mon premier courriel, il a accepté. C'était « Alex Francoeur et la Révolution de décembre » signé Québecissime. Une entrevue réalisée par Samuel Larochelle, parue le 28 octobre 2024 dans le magazine Fugue.
Femmes en politique, en découdre avec les apparences. Une chronique de Julie Gillet, parue le 26 septembre 2024 dans l'Aurore boréale du Yukon. L'arrivée de Kamala Harris et de ses fameuses basket Converse dans la course présidentielle américaine de 2024 a de nouveau mis en lumière le double standard auquel les femmes politiques sont confrontées en matière d'habillement. En politique, le double standard vestimentaire est aussi tenace qu'une tache de café sur un tailleur blanc. Alors que les hommes peuvent se fondre dans l'uniformité des costumes sombres, une femme n'a que rarement ce luxe. Le moindre faux pas vestimentaire peut être interprété comme un affront, une excentricité, voire un défi direct au code tacite du Boys Club, ce réseau informel où les hommes et leur vision dominent. tenue scrutée, idée éclipsée. Depuis son arrivée sur les devants de la scène politique en 2020, le style vestimentaire de Kamala Harris n'a cessé d'être commenté, notamment pour son affection pour les chaussures de marque Converse. Un détail qui a parfois pris une importance disproportionnée dans la couverture médiatique, occultant les véritables enjeux de ses campagnes. Au Canada, les choses ne sont pas si différentes. Le Québec a eu son propre scandale vestimentaire avec la députée provinciale Catherine Dorion. En 2019, Dorion, connue pour son style décontracté et ses prises de position audacieuses, s'est présentée à l'Assemblée nationale en coton ouaté, ce qui a déclenché un tollé parmi certains collègues qui estimaient que sa tenue n'était pas à la hauteur des attentes pour une députée. Comme si l'élégance vestimentaire était le critère ultime pour faire de la bonne politique. Bien sûr, les hommes en politique ne sont pas totalement épargnés par les jugements vestimentaires. Mais la différence est que, chez eux, les faux pas sont moins risqués et moins commentés. Tant qu'ils portent un costume sombre et des chaussures cirées, ils passent sous le radar. En somme, la société leur pardonne plus facilement. En politique, on s'attend à ce que les femmes soient sérieuses, mais pas trop. Élégantes, mais pas trop. Féminines, mais pas trop. Cette ligne totalement arbitraire à ne pas franchir est à la fois absurde et frustrante. Des figures comme Chrystia Freeland, ministre des Finances et vice-première ministre du Canada, ont régulièrement dû jongler avec ces attentes, subissant parfois des critiques pour des tenues trop simples ou trop féminines. Le débat autour des choix vestimentaires des femmes en politique n'est pas un simple affrontement de goût, mais bien une manifestation profonde de la manière dont les femmes sont perçues dans les sphères de pouvoir. Derrière les commentaires sur les tenues des femmes politiques se cache une vision patriarcale et profondément sexiste qui lie l'apparence à la compétence et la crédibilité. Un jeu aux règles invisibles. Le résultat de cette inégalité de traitement et de ces règles floues est que les femmes en politique doivent non seulement prouver leurs compétences, mais aussi gérer leur apparence avec une précision quasi chirurgicale. Si elles ne respectent pas les codes vestimentaires implicites, elles risquent de voir leur crédibilité remise en question. Dans ce contexte, l'apparence vestimentaire devient un enjeu politique, un espace où se jouent des luttes de pouvoir qui ne concernent pas uniquement les idées, mais aussi la manière dont les femmes peuvent ou ne peuvent pas occuper l'espace public. Le fait d'avoir deux poids, deux mesures en matière vestimentaire sert non seulement à limiter l'expression des femmes dans l'espace public, mais aussi à les renvoyer constamment à leur corporalité, les réduisant ainsi à des objets du regard. Il est temps que nous arrêtions de juger les femmes politiques sur ce qu'elles portent et que nous nous concentrions enfin sur ce qui compte vraiment, leurs idées, leurs politiques et leur capacité à diriger. Parce que, franchement, que Kamala Harris porte des Converse ou que Catherine Dorion préfère les cotons ouatés, ce n'est pas cela qui va résoudre les défis auxquels sont confrontées nos sociétés. C'était « Femmes en politique, en découdre avec les apparences ». Une chronique de Julie Gillet, parue le 26 septembre 2024 dans l'aurore boréale du Yukon.
Les travailleurs temporaires, les indésirables de l'histoire. Un texte de Sarah R. Champagne, paru le 29 octobre 2024 dans Le Devoir. Qui peut rester et qui doit partir? La question est au cœur du système d'immigration du Canada depuis les tout débuts de la colonisation. Dans une analyse publiée récemment, l'Observatoire pour la justice migrante jette un nouvel éclairage sur des tangentes peu reluisantes des politiques migratoires des derniers siècles. Le document en question part de l'argument voulant que les politiques d'immigration soient loin d'être neutres, selon l'une de ses autrices, Myriam Dumont-Robillard, et remontent jusqu'à leurs racines, qualifiées de coloniales et esclavagistes. Si, aujourd'hui, les distinctions ouvertement racistes dans la loi ont disparu, les chercheurs qui ont réalisé l'analyse veulent faire reconnaître que les politiques actuelles aussi s'inscrivent dans un historique racialisé, dit la professeure de la Faculté de droit de l'Université de Montréal. Le statut temporaire d'aujourd'hui, comme d'antan, n'est pas distribué de manière égale, bien au contraire, souligne Mme Dumont-Robillard. D'accord, les allusions à la race ont été retirées des lois, et tous les aspects expressément racistes, dit-elle, mais on trace toujours la limite entre les désirables, les Blancs, les Européens, surtout les francophones, et les indésirables, les personnes racisées, du Sud global, supposément mal adapté à notre pays et recruté pour des besoins temporaires, des besoins qui pourtant persistent depuis des décennies. À couleur de peau différente, statut différent, même s'il n'y a plus de texte de loi pour encadrer cette différence de traitement de manière aussi crue. C'est en substance la proposition assez forte que documente le jeune observatoire à travers les recherches de Mme Dumont-Robillard et également sous la plume de la politologue Fela Hadj-Kadour et de l'historien et rappeur Ali Djiye, alias Webster. Si l'ampleur du virage actuel de l'immigration vers le temporaire a surpris bon nombre d'observateurs et de politiciens, cette analyse veut montrer qu'il n'y a finalement rien de nouveau sous le soleil. C'est en ligne directe avec l'abolition de l'esclavage et non pas une conjoncture contemporaine de l'économie, expose l'avocate en entrevue. Le premier travailleur, sous statut temporaire, arrive sur le territoire pour remplacer les esclaves nouvellement libérés sous l'Empire britannique, rappelle-t-elle. La pratique de l'esclavage a été moins importante ici que dans d'autres territoires colonisés, mais l'idéologie a été conservée. Celle d'une hiérarchie raciale où les colons se placent tout en haut de la pyramide, résume M. Andelé dans une vidéo de vulgarisation également préparée par l'Observatoire pour la justice migrante. L'asservissement nécessaire à justifier l'esclavage, y compris une déshumanisation, s'est maintenu dans la structuration des institutions du Canada, indique le document. Un pays ouvert, mais pas à tous. Ils prennent aussi l'exemple des engagés. Quelques milliers de jeunes célibataires, originaires surtout de l'ouest de la France, qui arrivent majoritairement en tant que laboureurs ou domestiques au XVIIe siècle. Ils sont bel et bien liés à un seul employeur, et leur passage vers le Canada est payé par celui-ci en échange de leur force de travail. Ces engagés peuvent s'installer librement au terme de leur contrat temporaire, souvent de 3 ans. Pour les mêmes tâches, il existe donc déjà 2 statuts sociaux. Celui des personnes autochtones ou noires, qui sont considérées comme des biens meubles, et celui des Européens blancs, à qui le droit de rester à long terme est garanti d'emblée. Puis viendront aussi les « coolies » à la fin du 19e siècle, encore une fois moins nombreux au Canada que dans d'autres colonies britanniques. Il reste que ces hommes venus surtout de Chine et d'Inde demeuraient sous contrat à durée déterminée sans possibilité de s'établir. On connaît mieux les travailleurs chinois venus construire le chemin de fer transcanadien dans ces mêmes années entre 1881 et 1885. une fois les travaux achevés, on introduit la première mesure législative visant à empêcher leur immigration, soit une taxe exorbitante d'entrée. Cette époque coïncide avec le recrutement d'agriculteurs blancs voués à s'établir dans l'Ouest canadien, mais qui ne suffisaient pas à combler tous les besoins en main-d'œuvre. Viendront ensuite diverses lois migratoires qui comportent des dispositions limitant l'immigration permanente noire. Le gouvernement peut notamment interdire, à sa discrétion, le débarquement de toute trace impropre à notre climat nordique ou aux nécessités du Canada. Les autorités ont bel et bien utilisé la disposition pour refuser l'entrée à des personnes noires ou d'origine japonaise, indienne ou chinoise, confirme Mme Dumont-Robillard. Ancêtre du programme actuel. Puis, vers la moitié du XXe siècle, et en l'espace à peine d'une décennie, trois statuts différents sont créés dans le secteur agricole pour trois origines différentes. D'abord, les Européens de l'Ouest et du Nord, ceux qu'on tente de séduire par des incitatifs comme des maisons ou des salaires élevés, qu'on tente d'inciter à venir s'établir. Ensuite, les Européens de l'Est, un peu moins désirés, décrit-elle, et qui devront travailler durant un certain temps sous un contrat de travail exclusif à un employeur pour gagner leur place. Et enfin, les Jamaïcains, en vertu d'une première entente entre le Canada et la Jamaïque, signée en 1966 et jetant les bases du programme moderne de travail temporaire. Ils sont complètement indésirables et considérés alors comme des sous-humains, dit la professeure. En conséquence, ils seront liés à leur employeur et devront quitter le Canada à la fin de leur contrat. En résumé, toutes ces différentes classes de travailleurs étaient clairement basées sur la notion de race, reprend Myriam Dumont-Robillard. Le programme des travailleurs étrangers temporaires ou celui des travailleurs agricoles saisonniers d'aujourd'hui ne mentionne plus ce critère racial, pas plus que le système de points d'accès à la résidence permanente, mais, dans les faits, ces critères de sélection établissent une différence cruciale entre les immigrants à qui l'on permet de s'installer et les migrants jetables, conclut-elle. C'était « Les travailleurs temporaires, les indésirables de l'histoire », un texte de Sarah R. Champagne, paru le 29 octobre 2024 dans Le Devoir.